Sortie de boîte. Sortie de boîte, Cédric Adrover.
C'est le père que j'ai eu la première fois au téléphone quand j'ai eu envie de parler de l'entreprise MSO à Delémont. Des spécialistes du chronométrage dans la région, je le découvrais. Il a accepté de faire l'émission en me disant que c'est peut-être son fils qui viendrait à l'aise quand il s'agit de parler, m'a-t-il dit. En le rendant visite, c'est bien le fils que j'ai rencontré, très sympa, très passionné, à l'aise quand il s'agit de parler, en effet, avec un parcours atypique, un moment en lien avec la tectonique. On y reviendra plus tard. On s'installe dans une salle de conférence qui est aussi un entrepôt de chaises et on discute. Le père nous rejoint et la sœur aussi. Tiens, c'est vraiment une affaire de famille, MSO. Mais la petite entreprise devient grande et aujourd'hui, ils sont numéro 2 en Suisse dans leur domaine. Le chronométrage, mais pas que. À 18h33, 32 secondes et 46 centièmes, il est l'heure d'accueillir mon invité. Bonsoir Jérémy Muller. Bonsoir Jérémy Muller.
Bonsoir.
Et voilà. On va parler de votre entreprise, de votre parcours. Avant ça, comme d'habitude, un mot sur ce qui vous a amené aujourd'hui à être dans cette société. Vos souvenirs d'enfants, ils sont déjà teintés de manifestations sportives ?
Ouais, bah c'est vrai que depuis tout jeune, je vais sur les courses de VTT avec ma sœur. Enfin, c'est surtout ma sœur qui courait parce qu'elle était championne de Suisse. Et puis, j'ai toujours accompagné avec mes parents. Puis, on baigne dans le sport depuis tout jeune, effectivement.
Vous n'étiez pas sur le VTT, vous ?
J'y étais, mais pas au même niveau que ma sœur. Non, c'était vraiment elle la championne de la famille.
Mais professionnellement, vous n'avez pas forcément pris un chemin en lien avec le sport, en tout cas pas tout de suite ?
Non, pas tout de suite, exactement. J'ai fait d'abord un apprentissage de polymécanicien chez Tournos, à Moutier. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir justement lancer ma propre marque de vêtements quand j'avais tout juste 20 ans avec un ami d'époque justement qui était en apprentissage avec moi. On a commencé avec ça avant de faire plusieurs choses, effectivement.
Une marque de vêtements donc qui était en lien avec l'époque, la mode de la tectonique, c'est bien ça ?
Tout à fait.
Juste pour l'anecdote, je crois que vous avez eu des soucis avec une grosse chaîne de télévision en France.
Ouais, c'est vrai. Ouais, non, c'est vrai que on a eu la frousse un jour parce qu'on a ouvert notre boîte aux lettres, puis il y avait une lettre de TF1 qui nous menaçait de 3 ans de prison et 300 000 euros d'amende. À l'époque, ça faisait la frousse.
Ça calme. Ils voulaient s'attribuer tous les droits de la tectonique, c'était ça.
Exactement. Ouais. Sauf qu'ils avaient oublié que la Suisse faisait pas partie de l'Union européenne et du coup, on a pu sauter sur l'occasion, réserver la marque et exploiter la marque en Suisse.
Ouais. Aujourd'hui, donc, vous êtes dans l'entreprise MSO. Vous étiez déjà au sein de l'entreprise à la création?
Alors non, à la création, c'est mon père qui a créé l'entreprise en 2007. Moi, je l'ai rejoint en 2010.
D'accord. Et à la base, c'était déjà du chronométrage, 2007 ?
Alors, en 2007, c'était le début du chronométrage, je dirais. Mon père organise des manifestations sportives depuis qu'il est très jeune, depuis quasiment l'âge de ses 16 ans. Il a fait beaucoup de choses et puis, naturellement, il est arrivé au chronométrage. Car il avait des soucis, enfin c'était jamais facile de trouver les chronométreurs pour toutes les manifestations qu'il organisait. Et du coup il s'est mis lui-même à chronométrer ses propres manifestations.
D'accord, donc à la base c'était juste un organisateur de manifestations sportives et c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il y avait une demande, un besoin, que c'était pas facile en fait.
C'est exactement ça, ouais, tout à fait.
Comment l'entreprise s'est développée ensuite ? Vous êtes arrivé en 2010 ?
Ouais.
Pour quelles raisons ?
Je suis arrivé parce que avec mes business précédents, du coup, enfin la marque de vêtements, puis ensuite j'ai tenu aussi une discothèque pendant deux ans et demi à peu près. C'était un moment de ma vie où c'est que j'avais plus du tout de business. Enfin, c'était une période où c'est que j'étais libre et mon père m'a proposé naturellement de le rejoindre et puis d'essayer de développer ce business-là.
Ouais. C'était quand même un risque, mais on sent un peu l'entrepreneur chez vous. À 20 ans, lancer une marque de vêtements, ensuite être patron d'une boîte de nuit, ensuite suivre son père dans ce challenge. Vous n'arrivez pas à avoir un patron ou une vie de salarié calme ?
J'ai jamais eu de patron, effectivement. Et puis, non, ouais, c'est vrai que j'aime bien construire des choses, développer des... Enfin, ouais, créer plein de choses et puis essayer d'en vivre, ça a toujours été mon objectif, effectivement.
En 2010, vous aviez combien de clients pour faire tourner MSO ?
Alors quand je suis arrivé dans l'entreprise, mon père chronométrait ses propres courses, plus une quinzaine d'autres. Et donc en 2010, on avait une vingtaine de courses, grosso modo. Quoi.
Et aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on est bientôt à 300.
Ah oui, donc vous êtes plus que x10.
Ouais.
Cette évolution rapide, ça a posé quelles difficultés ?
Toute difficulté d'une start-up qui monte très vite, hein, donc il a fallu investir beaucoup d'argent, il a fallu recruter du monde. On est dans un métier où c'est qu'il n'y a pas de formation, donc on forme les gens par rapport à nos compétences propres. Et puis ni mon père ni moi sommes de ce métier-là, donc mon père est mécanicien électricien, moi je suis simplement mécanicien de base. Du coup on a tout appris sur le tas, des fois vraiment alors, en bricolant, quoi, puis en essayant. Et puis, il a fallu former les gens dans ce domaine-là. Puis, on n'a aucun cursus universitaire au niveau business, etc. Donc, vraiment, enfin, mon père a longtemps eu aussi un magasin de cycles, donc il connaît quand même un peu le business, etc. Mais c'est vrai que pour nous, pour moi surtout, on découvre au jour le jour les choses. Encore aujourd'hui, on découvre certaines choses et certains penchants du business, quoi.
Mais vous avez été pris de court par le succès ?
Alors, je dirais qu'on a toujours su s'en sortir. On n'a jamais eu de problème particulier, mais c'est toujours... on a vécu une période de, je dirais... Maintenant ça va bien, mais il y a 2-3 ans en arrière, on était à la limite de la limite, quoi, parce qu'on grandissait, on doublait de taille chaque année quasiment. Et puis c'est vrai qu'on devait chercher du personnel constamment, toujours trouver du matériel, acheter du matériel rapidement pour des mandats qui venaient, etc. Donc...
Avant de parler vraiment de vos activités, un dernier mot sur la structure, entreprise familiale. Vous travaillez avec votre père, votre soeur, d'autres gens aussi, hein, mais vous êtes quand même les trois. Ça a quels avantages, ça?
Bah nous, on a de la chance, c'est qu'on s'entend très bien. Ouais. On a une très très bonne entente entre mon père et ma sœur. C'est très très rare les fois où c'est qu'on n'est pas d'accord sur des domaines. On a vraiment... Enfin, je pense que je peux compter sur les doigts d'une seule main les fois où on s'est un petit peu chamaillé pour des choses anecdotiques. Vraiment, ça se passe très très bien.
Qui tranche quand vous chamaillez sur les doigts d'une main?
Je dirais que c'est... Enfin, je sais pas. Des fois, j'ai l'impression que c'est peut-être ma sœur parce que... Ma sœur est venue en dernier, et puis... peu importe, mais ça arrive tellement rarement que...
Je ne veux pas vous monter les uns contre les autres. Hein. Aujourd'hui, à MSO, quels sont les sports pour lesquels vous faites du chronométrage ?
Alors bon, principalement, on est sur la course à pied et le vélo. Ça, c'est nos deux grosses disciplines, je dirais.
Mais pas en stade, hein ?
Pas en stade, non. En chronométrie, en stade, on est tous sur des courses, ce qu'on appelle des courses de masse, donc des courses qui se font en pleine nature et avec un certain nombre de coureurs. C'est vrai qu'un 100 mètres, on n'a pas les outils pour chronométrer un 100 mètres ou pour chronométrer ou bien pour mesurer par exemple un lancer du javelot. C'est pas des choses qu'on fait.
Alors les outils que vous avez pour chronométrer des courses ouvertes, c'est quoi concrètement?
Alors on fait que du chronométrage par transpondeur électronique. Donc chaque athlète est équipé d'une puce électronique. Mmh. Et puis cette puce électronique nous permet de déclencher des temps au départ à l'arrivée sur des points intermédiaires, enfin à toutes sortes de places. Pour justement faire le chronométrage.
Donc chaque athlète en fait est chronométré individuellement, c'est pas une puce au début, une puce à la fin, et puis vous déclenchez, c'est vraiment chaque personne qui se voit mesurer son temps, c'est ça?
Exactement.
Concrètement aujourd'hui, si quelqu'un vient vous voir, un organisateur, qu'est-ce qui se passe derrière? Vous faites quoi? Vous prenez que le chronométrage? Il y a d'autres choses?
Déjà on le remercie de s'intéresser à MSO.
Oui, c'est poli.
Et puis ensuite, on lui demande tout ce qu'il a besoin, parce que c'est vrai que MSO... Le but ultime d'MSO, c'est de pouvoir décharger au maximum l'organisateur dans le déroulement de la course. Donc, on va lui demander s'il veut uniquement un service de chronométrage ou s'il veut d'autres services, parce qu'on est, c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses, quoi, effectivement.
Vous parlez de beaucoup de choses, il y a effectivement la communication, l'accueil des athlètes, l'animation sur place, la diffusion en direct du classement, le chronométrage, et on en passe. On va se rendre sur place pour en savoir un petit peu plus. Hein. On va retrouver Jean-Michel Probst, qui est avec votre sœur, justement, Sarah Muller, chef de projet et chef du Print Center devant une machine. On les retrouve, qui imprime des dossards.
Sortie de boîte.
La machine, elle peut être assez sensible. Tout dépend du papier, de la température du papier, puis de ce genre de choses.
Le papier, il est utilisé en fonction de quoi? En fonction des désirs du client?
Alors, c'est plutôt en fonction du genre de manifestation. Mmh. Comme par exemple ce week-end, on chronomètre la course mythique du kilomètre vertical de Fuyi. Et puis là, c'est plutôt du dossard que les athlètes y portent sur eux. Et puis sinon, on a également de la plaque de guidon pour ce week-end. À Corbière, c'est de la plaque de guidon, c'est ce qu'on va mettre plutôt sur un VTT.
Et donc là, on imprime.
Voilà, là on imprime. Là, elle a commencé d'imprimer les plaques de guidon.
Ah, ça, c'est les plaques de guidon, donc ce sera quelque chose de beaucoup plus rigide.
Voilà, ouais. Tout à fait. Donc ça, c'est indéchirable. Il peut vraiment y avoir des conditions extrêmes. Il n'y a aucun souci au niveau de la tenue.
On est aujourd'hui le 18 octobre. La course, là, a lieu le 21 octobre. Il faut peu de temps hein, pour tout imprimer et tout amener sur place, tout organiser.
Non, en effet, c'est toujours un peu chaud en fin de semaine, en effet. Tout se fait en fin de semaine. Lundi, mardi, c'est plutôt...
L'organisation, la mise en place de tout cela.
Voilà, exactement. Faire dès qu'on ait assez de papier en stock, par exemple. Et puis après, au niveau mercredi, jeudi, bah là, c'est tout ce qui est impression, mise sous pli. On a une équipe qui vient renforcer aussi l'emballage quand on a des gros week-ends avec 4-5 000 athlètes. Et puis, la défense n'est plus donnée de la tête.
Là, c'est le contrôle des différentes puces, voir si elles fonctionnent, si elles sont activées.
Voilà, exactement. Là, on va tester les puces. Il y a des petites piles à l'intérieur.
Des piles rondes.
Hein. Voilà, tout à fait. Et puis, si une puce passe à moins de 25%, on va la changer pour être sûr qu'elle va fonctionner le jour de la manifestation. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des puces actives qui sont récupérées à la fin de chaque manifestation. Quand on est en puce active, on doit les tester avant, on doit les récupérer après la course, on doit les nettoyer si elles sont sales, les ranger dans le bon ordre. Donc ça, c'est vrai que c'est du travail. Et puis ici, on a les puces
passives.
Voilà, c'est la nouvelle technologie qu'on a acquise cette année. Donc ça, c'est des puces qui viennent coller derrière le dossard. Et puis ceci, eh ben, c'est jetable. Donc l'athlète, il peut garder son dossard après la course avec sa puce collée derrière le dossard sans aucun problème.
Sortie de boîte.
De retour dans notre studio de Delémont avec Jérémy Muller, responsable clientèle de MSO. On a entendu votre sœur nous parler des puces actives, des puces passives. Donc les puces actives qu'on prend et qu'on doit rendre à la fin de la course, les puces passives qu'on peut garder, une nouvelle technologie. À terme, c'est cette technologie-là qui prendra, les puces actives disparaîtront ?
Je ne pense pas qu'elles disparaîtront parce qu'elles ont des fonctionnalités plutôt différentes, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique de travailler avec du transpondeur passif, effectivement.
Ouais. Et on peut voir une photo d'ailleurs sur notre site internet, on voit des rouleaux et des rouleaux, en fait, ça pouvait sans autre les perdre ou les laisser, quoi. C'est l'avantage. Vous êtes spécialisé dans les courses de montagne, notamment, qu'est-ce qu'elles ont de spécifique ?
Alors les courses de montagne, la spécificité, et c'est pour ça qu'on s'est spécialisé là-dedans, parce que en plus du chronométrage, on souhaite gérer la sécurité. Enfin, on essaye de gérer la sécurité au mieux pour l'athlète et pour l'organisateur. Donc, on a développé des logiciels et des systèmes avec des algorithmes relativement précis qui nous permettent justement de gérer la sécurité complète de la course.
Concrètement, ça veut dire quoi ? Comment vous savez si un athlète est en sécurité ou non ?
Alors, justement, je vous disais, l'algorithme, il nous permet de mesurer la vitesse de chaque athlète sur un premier secteur qui est généralement du départ jusqu'au premier 5 km. On mesure la vitesse moyenne de chacun. Et par rapport à cette vitesse moyenne, on la corrèle, en fait, sur les secteurs suivants. Donc, ce qu'on appelle un secteur, c'est bêtement un segment deux points intermédiaires. Et puis, cet algorithme nous permet de savoir à quelle heure l'athlète va passer sur le point intermédiaire suivant, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, s'il n'y passe pas, on a un système d'alerte qui nous permet de se dire peut-être que cet athlète, il a un pépin. Et puis, après, on a tout un système de gestion informatisé qui permet de le suivre, de le gérer, de rentrer en contact avec lui, de lui donner des informations par différents biais, quoi.
En Suisse, vous avez des concurrents sur ce secteur-là ?
On en a un. En Suisse, non, sur le secteur de la sécurité, on n'a pas vraiment de concurrent, je dirais.
Un gros concurrent sur le reste du chronométrage, une entreprise qui a longtemps d'ailleurs été un monopole. Comment on affronte un concurrent aussi bien installé ?
Bon, au début, c'est vrai qu'on en avait peur. Hein. C'est que c'est un concurrent qui est en place depuis maintenant, je dirais, une trentaine d'années, qui a la plupart des grosses courses suisses, qu'on a encore beaucoup maintenant. Et puis, nous, on a toujours essayé de se démarquer avec des produits différents et puis on a toujours misé sur la qualité du travail. Ça a toujours été vraiment une chose que mon père a choisi et nous a inculqué autant à moi, à ma sœur et à tous les employés d'MSO aujourd'hui, c'est de faire de la qualité plutôt que de faire de la quantité. Et c'est pour ça qu'on a toujours choisi les meilleurs matériaux, le meilleur système de détection. Enfin, le premier système de détection nous a coûté très cher parce qu'on a choisi un système Tag Heuer qui est encore au jour d'aujourd'hui l'un des meilleurs du monde.
Donc vos concurrents, c'est pas sur les prix en fait ?
Un petit peu aussi, on est un petit peu moins cher que notre concurrent principal, effectivement, mais c'est vraiment la qualité et puis le service, la flexibilité qui nous démarque.
Aujourd'hui, vous l'avez dit, ils ont encore les plus grosses courses en Suisse, en tout cas de nombreuses. Lesquelles vous visez ?
Beaucoup toutes. Non, c'est vrai, mais que...
De manière crédible.
De manière crédible, on est sur... On est actuellement, je ne vais pas vous mentir, mais on essaye d'obtenir des mandats de type, du type genre Sierre-Zinal. Ça, c'est vraiment un objectif qu'on a. On aimerait bien avoir des courses comme le Grand Raid. À terme, on aimerait... Là, on est en discussion, pas plus tard qu'hier. J'étais encore avec le service des sports de la ville de Lausanne pour récupérer le marathon de Lausanne, les maquilles de Lausanne, etc. Donc, vraiment, on vient sur des grosses manifestations pour essayer de déloger notre concurrent de la Suisse romande, c'est le but. Quoi.
Oui, le concurrent donc est suisse alémanique, c'est ça, hein ?
Tout à fait.
C'est,
ouais.
C'est difficile d'aller prospecter, d'aller trouver des. Là, vous me citez beaucoup de courses romandes. Difficile d'aller en Suisse alémanique ?
Très difficile.
Pour quelles raisons ?
Bon, la barrière linguistique, d'ailleurs. D'abord, je pense que c'est le principal problème. Et puis, malgré tout ce qu'on veut dire, tout ce qu'on peut entendre, etc., on a quand même une différence de mentalité qui est assez énorme entre les Suisses allemands et les Suisses romands. Puis c'est vrai que malgré qu'on essaye de faire le plus d'efforts, enfin qu'on met vraiment le plus d'énergie possible pour essayer de les satisfaire, c'est assez difficile de les satisfaire.
Il y a un autre développement, en plus d'avoir de nouvelles courses, un autre développement d'entreprise qui suit d'ailleurs la tendance technologique, c'est le téléphone portable, les applications smartphone. Comment vous adaptez-vous à cette donne avec votre activité de chronométrage ?
Alors bah justement, c'est un des défis hein, qui va nous attendre ces prochaines années, c'est de passer sur le tout connecté. On y a déjà commencé, on travaille sur des applications, on a une première application qui est sortie pour une autre chose, mais on travaille sérieusement sur des applications pour donner de l'information aux athlètes à tout moment, avant la course, pendant la course, après la course, du résultat, pendant la course, lui donner les informations pour savoir quelle position il a, quel retard il a sur son pote de travail ou sur le leader, etc. Des choses comme ça, lui donner pour qu'il puisse savoir à quelle distance se trouve le prochain ravitaillement, enfin plein de choses comme ça, quoi.
Et puis l'autre projet, il s'appelle Timmy. Quel est son but ?
Timmy, le but, c'est de faire bouger les gens, c'est de grosso modo, on surfe un peu sur la vague sport santé. C'est vraiment l'idée de Timmy. Et puis, Timmy, c'est actuellement une application qui a débuté, je dirais, en catimini, hein, parce qu'on a peu communiqué dessus pour l'instant. C'est anecdotique la communication qu'on a faite. Et puis, on a développé cette application dans le but de pouvoir s'auto-chronométrer, je dirais, avec son smartphone.
Mais comment ça fonctionne ? Parce que s'auto-chronométrer, on peut le faire avec n'importe quel chronomètre.
Effectivement, non. Alors bon, on va s'auto-chronométrer, c'est une chose. Après, l'idée, c'est quand même de pouvoir se comparer et puis de pouvoir créer un classement. Donc bon, sans aller vraiment dans le détail, on pose des appareils dans le terrain. Donc ce qu'on appelle un acquéreur de parcours, donc une institution telle qu'une office du tourisme ou une ville, enfin un service des sports, etc., peut acquérir un parcours Timmy. MSO va équiper le parcours, donc on va installer des beacons au départ sur certains points intermédiaires, etc., et à l'arrivée. Et puis avec le téléphone portable, par le biais de la technologie du Bluetooth, tout simplement, on peut faire du chronométrage.
Il y en a déjà des parcours ?
Actuellement, il y en a deux, ouais. On a ce qu'on appelle notre parcours labo, qui est le kilomètre vertical de Fuy. On en a parlé justement la semaine dernière, il y avait la course mythique du kilomètre vertical de Fuy. Et puis depuis le 1er juin, je crois, ou le 10 juin, on a un parcours Timmy sur le kilomètre vertical de Fuy.
Donc les gens peuvent aller se mesurer aux meilleurs et voir les résultats des meilleurs et se comparer à eux.
Exactement. Ouais.
Le marché, là, le but, c'est quoi ? C'est de viser les applications, les gens, ou bien le business model est plutôt axé sur les offices du tourisme ou les organisations ?
C'est-à-dire que nous, clairement, nos clients sont les offices du tourisme et puis les différentes organisations qui seraient sensibles à faire bouger leurs concitoyens ou leurs touristes, etc. Et puis, mais c'est vrai que nous, derrière, on gère aussi toute la partie, tout ce qu'on appelle le network qui tourne autour de l'application et puis du monde de Timmy. Parce que Timmy, ce n'est pas seulement une application, c'est un personnage, c'est une voix. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de Timmy. Timmy va vous rappeler d'aller faire du sport quand on n'en fait pas pendant quelques semaines. Timmy va vous avertir qu'il y a...
Ça peut être agaçant, ça. Hein.
Ça peut être agaçant. Mais enfin, plein de choses comme ça qui va alimenter la communauté et puis qui va pousser les gens à faire du sport. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu le fléau du 21e siècle. Hein, c'est que les gens restent assis au bureau et puis ne bougent pas assez. Quoi.
Donc une application qui a été créée, elle est déjà disponible sur toutes les plateformes,
hein. Ouais, elle est disponible sur l'Apple Store et puis sur Google Play aussi.
Courir après le temps, c'est aussi ce que fait chaque semaine Marie-Lise Saillard dans sa chronique horlogère. Cette semaine, elle se pose un peu, elle fait dans la philosophie.
Pile à l'heure.
Zoom sur Manufacture Royale, une marque horlogère fondée en 1770 par François-Marie Arouet, plus connu sous le nom de Voltaire.
regrettera qui veut le bon vieux temps et l'âge d'or et le règne d'Astrée et les beaux jours de Saturne et de Rhé et le jardin de nos premiers parents.
Voltaire, pour beaucoup d'entre nous, c'est un célèbre philosophe français à l'époque des Lumières, mais pas seulement. N'est-ce pas Alexis Gouten, copropriétaire actuel de la marque Manufacture Royale ?
Voltaire était d'abord un businessman, parce que pour avoir le temps de philosopher et d'écrire, il avait des affaires dans beaucoup de domaines. Il était basé en France. La Manufacture Royale, elle est née d'abord à Ferney, et puis ensuite, elle a déménagé en Suisse. On a retrouvé des documents qui prouvent qu'il y a une histoire, qu'à l'époque de Voltaire, il avait nommé des ambassadeurs qui allaient vendre à des grandes familles royales ou princière en Europe.
Cette première partie de l'histoire a duré jusqu'à la fin de la vie de Voltaire en 1778. Manufacture Royale est ensuite tombée dans une très longue période de sommeil jusqu'à sa renaissance en 2010. Alexis Gouten et son cousin David Gouten l'ont racheté en 2013. Manufacture Royale est actuellement basée dans le canton de Vaud, à Valorbe. Son créneau, la haute horlogerie. Elle a une petite production de 150 pièces par année, des montres principalement axées sur le mouvement tourbillon, dont le prix se situe entre 30 000 et 350 000 francs. Le modèle ADN Disque Sautant fait partie des 6 montres en compétition dans la catégorie fuseau horaire pour le prochain Grand Prix d'horlogerie de Genève, le GPHG. On retrouve Alexis Gouten.
Cette pièce-là, c'est un petit peu une renaissance pour nous parce que on part sur une forme qui est un peu iconique chez nous, qui est la collection qu'on appelle androgyne, et puis sur une complication qui est dual time, tourbillon, avec un disque sautant pour les heures. Donc quelque chose d'à la fois très complexe, mais très pur à regarder.
Et avoir un modèle en compétition au GPHG, ça fait quoi et ça rapporte quoi ?
Écoutez, on est toujours honoré d'être sélectionné, surtout par une organisation aussi prestigieuse. C'est clair que le coup de pouce, il est surtout pour la notoriété. Ça donne de la visibilité. On découvre tout de même que dans certains pays, ça a plus de valeur que dans d'autres. Donc c'est toujours un plus de pouvoir dire qu'on a gagné un prix ou qu'on est dans le dernier carré pour gagner un prix.
Dans quel pays ça a plus de valeur que d'autres ?
Écoutez, en Asie, alors dans certains pays asiatiques, certains pays du Moyen-Orient, je dirais que l'impact est plus faible au niveau européen.
Alors que ça se passe en Europe ?
Alors que ça se passe en Europe. Je ne sais pas, c'est une question de culture ou de tradition où dans ces pays-là, le fait d'avoir, de recevoir un prix prestigieux d'une organisation suisse est peut-être plus de valeur qu'ici. Peut-être qu'on connaît moins la valeur des choses ici. Voilà.
On est blasé ici.
On est certainement blasé. L'horlogerie, on est peut-être un peu blasé en Suisse.
Alors, qui va l'emporter dans cette catégorie fuseau horaire lors du Grand Prix d'horlogerie de Genève ? Réponse le 8 novembre.
Pile à l'heure.
Blasé par l'horlogerie, peut-être. En tout cas, notre invité, lui, n'est pas blasé par le chronométrage. Jérémy Muller, responsable clientèle pour l'entreprise MSO, basée à Delémont et spécialisée donc, dans le chronométrage, qui était notre invité ce soir. Dernière question pour vous, Jérémy. Il y aura toujours un marché pour le chronométrage, vous pensez ?
Tant que les horloges tournent, j'espère, ouais. Non, mais je pense que oui. Ouais, non, mais les gens sont de plus en plus friands du sport et de plus en plus friands de se comparer les uns les autres et puis de se chronométrer. Donc, ouais, ça fait depuis la nuit des temps que l'homme se compare. Donc, je pense qu'il y a un marché pour le chronométrage encore un bon moment.
Vous n'avez pas peur que les immenses des États-Unis, Apple, Google, se mettent sur ce marché-là en montre connectée et qu'ils vous restent.
Oui, bah, c'est toujours une crainte qu'on a. Hein. Je dirais que c'est la plus grosse crainte qu'on a. Mais je pense qu'il y a peu de chances qu'on arrive un jour à faire du chronométrage par une montre ou par un téléphone. Enfin, pour l'instant, on n'y est encore pas. Puis je pense que pour les 10 prochaines années, on n'y sera pas.
Quoi. Vous êtes tranquille. En tout cas, merci d'avoir été notre invité ce soir. On vous souhaite une excellente soirée.
Merci à vous.
Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec Alizé Lichti sur RFJ et RTN, qui sera avec Nicolas Weffler, responsable de Swiss Center Samara, un projet qui veut conseiller les PME suisses en Russie. Et du côté d'RJB, nous serons en direct de Moutier Expo, mais vous pourrez également réécouter l'émission sur notre site internet, comme toutes les autres éditions de Sortie de boîte. Excellente soirée.
Sortie de boîte.